Le second Isaïe, c'est davantage une réflexion sur l'unicité de Dieu, sur sa présence dans l'humanité, dans son prophète, dans le peuple, dans son prophète. Et il oppose très fort le vrai Dieu à toute espèce d'idole, mais dans une réflexion. C'est déjà une réflexion seconde. Et donc, il a sa caractéristique et son langage tout à fait propre. Quand vous prenez les trois, si vous les traduisez avec des hébraïsants en herbe, ils perçoivent vite la différence d'accent. Et le langage dit différent. Et puis, ce chapitre se termine encore par deux oracles. Ainsi parle le Seigneur. Et ceci est un passage presque sapientiel, parce que ce qui était de la réalité humaine, l'histoire, il va la reporter à la création. Ça, c'est un mouvement tout à fait sapientiel. On ramène au début ou à la fin. Ainsi parle le Seigneur, lui qui établit le soleil pour éclairer le jour, la lune et les étoiles pour éclairer de nuit, le Seigneur qui est présent et de jour et de nuit, qui brasse la mer et en fait mugir les flots, la terre et la mer, lui dont le nom est le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées, c'est d'abord les armées célestes, hein, c'est-à-dire les planètes, les étoiles, le soleil et la lune. Si jamais cet ordre, l'ordre de la création, venait à défaillir devant moi, oracle du Seigneur, alors la race d'Israël cesserait aussi d'être une nation devant moi pour toujours. C'est une autre manière de dire que son amour est éternel. Parce que la création, c'est stable. La création est de toujours à toujours. Qu'on parvienne à mesurer le ciel là-haut et à sonder en bas les fondations de la terre, alors moi aussi, je rejetterai la race d'Israël pour tout ce qu'elle a fait, oracle du Seigneur. Autrement dit, c'est impossible que je cesse d'aimer mon peuple. Et nous avons ici quelque chose de très profond. Parce que ici s'enracine la foi en la résurrection. Résurrection du peuple, mais c'est encore une image. Le peuple était des ossements desséchés sur une terre, jetés sur une terre inconnue. Et ils vont revivre. Mais c'était une image. Mais au fond, sur quoi est basée la foi en la résurrection qui va naître après l'exil en Israël, mais qui va surtout s'exprimer au fin du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, donc 3 siècles plus tard que ce que nous voyons. Mais si Dieu fait une alliance nouvelle avec l'homme, si Dieu est présent dans le cœur de l'homme, et que Dieu est éternel, c'est-à-dire Chaï, vivant, on ne va pas mourir, hein. Ou bien la mort n'est pas la mort. Dieu ne peut pas se passer de nous, c'est indiqué dans le texte. Ce texte est probablement un peu postérieur à Jérémie et après l'exil. Vraisemblablement, il date du 3e siècle, semble-t-il. C'est un peu un autre langage. Un langage de sagesse. Mais on voit bien que c'est cela que l'on veut dire. Cette alliance nouvelle fait que Dieu ne peut plus se passer de nous. Nous faisons en quelque sorte partie de lui. Entrer dans son intimité, on ne la quitte plus. Donc, c'est déjà les soubassements de la foi en la résurrection. Et puis, il faut bien dire que ça va se passer. que Jérusalem va être reconstruite et que cette alliance nouvelle va vivre. Ce ne sont pas seulement des beaux paroles, de belles paroles. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où la ville du Seigneur, on ne dit plus Jérusalem, hein, la ville du Seigneur sera reconstruite depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Ça a disparu maintenant de la ville de Jérusalem. C'était autrefois le nord et le sud. L'angle, c'est probablement quand même ce que nous appelons le pinacle du temple. Puis le cordeau à mesurer sera encore tendu tout droit sur la hauteur de Gareb pour tourner vers Goa. Ça, ce sont des lieux qui sont difficiles à situer. Et toute la vallée avec ses cadavres et sa cendre et tous les champs attenant au ravin du Cédron jusqu'à l'angle de la porte des chevaux vers l'est seront consacrés au Seigneur. Tout ce qui était pourriture, tout ce qui était géhenne, tout ce qui était détritus va être transformé, consacré au Seigneur. Il ne sera jamais plus question de destruction et d'anathème. Une autre manière de dire que l'alliance nouvelle avec le Seigneur, que le Seigneur nous donne, elle est éternelle. Et qu'en lui, nous demeurons. Ne me demandez pas comment. On peut essayer de se représenter les choses, et il faut bien qu'on se la présente. Il y a toutes sortes de fresques du jugement dernier. Mais Dieu nous porte dans son intimité. Et Jésus va, dans des termes qui seront à lui, mais où il reprendra les prophètes, il va nous le redire. Mais il va nous dévoiler cette intimité. Il va nous parler du Père. Il va nous parler du Fils qu'il est et des fils que nous sommes. Il va nous parler de l'Esprit qui les lie l'un à l'autre. Mais ce qui est important de voir, c'est la continuité de la tradition, de la révélation. C'est nouveau, mais tout était déjà en germe. Mais il fallait que cela nous soit révélé. Voilà, si vous le permettez, nous allons nous arrêter ici.
Vous avez la vocation qui est un peu en dehors, et à la fin aussi, vous avez une conclusion qui est plutôt des additions au livre. Donc, la première partie, les 24 premiers chapitres, sont des oracles de Jérémie au sujet de Jérusalem, sous les rois Josias, Joachim et Zédéchias. La deuxième partie dans laquelle nous sommes pour le moment, dont le centre est le chapitre 31, entre 25 et 45, ce sont des récits, j'ai mis partie parce que ce sont des récits et des oracles, mais c'est biographique, donc on vous raconte l'histoire de Jérémie. Et Baruch est probablement l'auteur présumé en tout cas, de ces récits biographiques, en tout cas au départ. Il y a probablement eu des rédacteurs finaux. Et alors, chapitre 46 à 51, jusqu'à pratiquement la fin, de 46 à 51, ce sont des oracles sur les nations.
C'est 46 à 51. Et alors, la conclusion, c'est le chapitre 52.
Ce n'est pas une conclusion du livre à proprement parler. Ce sont des additions, on parle généralement d'appendices, parce que ce sont une partie du livre des rois qui a été reprise parce que c'est contemporain de Jérémie.
Et Baruch lui n'a pas été inquiété comme Jérémie. Ils n'ont pas su que c'était son secrétaire ou quoi?
Mais nous allons voir. Il intervient, mais il a été, comment dirais-je, un peu protégé parce que c'était pas le grand homme, quoi. C'était pas celui qui était à l'origine des oracles. Mais il a été vraisemblablement inquiété aussi. Mais alors le livre de Baruch lui-même est composé de morceaux qui ne viennent pas de l'époque de Jérémie. Regarde dans l'autre sens. C'est pour cela qu'on l'a, on l'a placé immédiatement après. Vous avez les Lamentations qui viennent après, mais dont on ne sait pas quel est l'auteur. Et puis, dans nos éditions en tout cas, vous avez le livre de Baruch qui est composé d'une prière des exilés. On ne sait pas du tout quel est l'auteur. D'un passage sur la sagesse, qui vient aussi d'ailleurs, et des, ici la Bible de Jérusalem, titre Plainte et espoir de Jérusalem. Et puis, vous avez une reprise du chapitre 29e de Jérémie, qui est la lettre de Jérémie. C'est une autre version de la lettre de Jérémie. Vous voyez, on a mis des mélanges, en quelque sorte, sous le nom de Baruch, pour dire, vous savez, ces morceaux que nous avons trouvés, on ne veut pas les perdre, mais ils sont un peu de la mouvance de Jérémie. C'est la même famille. Mais pour le livre de Jérémie, on ne donne pas de plan plus circonstancié. C'est très difficile, comme je vous l'ai dit, parce que on ne voit pas comment il y a une idée centrale. Sinon, on veut vous mettre d'abord en contact avec les oracles de Jérémie à propos de Jérusalem. Ça, ce sont les 24 premiers chapitres. Mais c'est aussi un recueil, parce que les oracles ne sont pas mis par ordre chronologique. Et alors, la biographie est une reprise de la vie de Jérémie. Hein? Une fois qu'on a entendu ces oracles, on se demande, mais quel est ce type-là? Eh bien, on va vous donner un certain nombre de souvenirs, mais on ne sait pas très bien quel est l'auteur de ces souvenirs, puisque là, ce n'est plus Jérémie qui parle lui-même, hein, mais vraisemblablement son secrétaire. On va vous cadrer, en quelque sorte, dans la vie de Jérémie, hein, pour que vous puissiez découvrir le contexte de ces oracles. Et puis, ce qui vaut pour Israël vaut pour chacune des nations. Comme dans une famille, ce qui vaut pour l'aîné doit valoir aussi pour les suivants. Et donc, on va vous parler des nations pour dire à Jérusalem, vous savez, votre vocation n'est pas seulement pour vous, hein. Être privilégié, c'est toujours être privilégié pour les autres. C'est un service. Et donc, si vous êtes l'aîné, c'est pour aider papa et maman, hein. C'est normal. Et c'est ce que l'on dit. C'est pour ça qu'on a mis, hein, à la fin, les oracles sur les nations, pour dire que ce qui vaut pour le premier vaut pour chacun. Et donc, un privilège, ce n'est pas quelque chose qui est donné aux uns et pas aux autres. Un privilège, c'est ce qui vous sera donné, voyez comme ça vous est donné, dans l'autre. Mais nous voulons toujours attirer les choses à nous. Or, ce qu'il faut faire pour Israël, et tous les textes le font, et surtout les prophètes, c'est d'ouvrir Israël aux nations. Ce qui nous est donné pour les autres. Bien comme le répétait Pierre ce matin, un charisme est au service de la communauté.
Hein? Tout est à table des propos privés.
Des propos de table. Tichuré de... Mais c'est Saint Paul qui a dit ça. Vous en faites pas. Mais oui. Ça vient de Saint-Paul. Tout ce qui nous est donné pour les autres. Donc, tant mieux si ça déborde. Voilà. sais bien qu'aujourd'hui, le terme de service n'a plus tellement de signification, sauf le mot self-service. On voit bien. Shirut Atzmi. Voilà. Donc nous avons vu ce passage qui est le sommet du livre, qui est au fond le but et ce qui sous-tend tout le livre. Ne vous arrêtez pas à vos lamentations, mais essayez de découvrir à l'intérieur même de vos lamentations l'espérance qui vous est donnée. Ils ont dit, mais on est gras avec ça. Mais oui, on est gras avec ça. Maintenant, il faut la vivre. Et la vivre, comme le dit André Néer dans son petit livre sur Jérémie, la vivre, ça veut dire traverser la minuit, traverser la nuit. Et il va traverser la nuit avec son peuple. Et il n'est pas du côté de ceux qui... dont il a dit qu'ils étaient les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui sont partis en exil. Mais il reste avec ceux qui restent. Et donc il partage les tiraillements, les tensions de ceux avec qui il demeure, et il va être emporté en Égypte alors qu'il a toujours prêché contre l'Égypte. Donc c'est un destin qui semble être, là si on le lit de l'extérieur, qui semble être un échec. Comment le Seigneur est-il présent à travers nos échecs, ce que nous appelons des échecs? Pour le Seigneur, il n'y en a pas. Il y a des changements de situation, mais il n'y a pas d'échecs. Et alors, ici, je vois que le titre de la Bible de Jérusalem, c'est chapitre 32 et 33, je suppose. Oui, c'est ça, 32 et 33. Et il met addition au livre de la consolation. Bon, si vous voulez, ce sont des additions, parce que c'est un souvenir bien particulier. On dit qu'au moment, en plein, dans la guerre, alors que rien ne va, eh bien, il y a le cousin de Jérémie qui lui offre de racheter un champ. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Ah oui, mais racheter un champ quand rien ne va, ça signifie justement l'espérance. Une espérance qui est attachée à la terre. Bon, ce ne sera pas pour Jérémie, il n'en profitera pas, peu importe. Il y en a d'autres qui en profiteront. Mais c'est pas pour rien que ce texte a été mis à cet endroit-là. Donc c'est un signe concret de l'espérance. La terre est en quelque sorte déjà donnée. Pour ceux qui sont en exil, la terre sera donnée aussi aux successeurs. Eh bien, c'est pareil. C'est un signe concret. Les Israélites, et surtout ceux qui écrivent, aiment bien les signes symboliques. Eh bien, c'est un de ces signes symboliques. Je reviens encore un petit moment sur le texte de la Nouvelle Alliance pour vous dire que la petite note que j'ai ici, moi j'ai une vieille édition de la Bible de Jérusalem, c'est celle que j'ai reçue à mon ordination en 1955. Je m'y suis toujours fié, elle n'est pas mauvaise, elle vaut une autre. Il y en a encore beaucoup d'autres depuis. Il y en a l'une ou l'autre qui est un peu moins bonne, parce que les notes sont légèrement antisémitiques, mais enfin, voilà. Et voici ce qu'il dit. La nouveauté de l'Alliance porte sur trois points.
C'est quel numéro de note?
C'est la note K, à la page 1092 chez moi.
Oui, c'est ça.
Toi aussi, tu as la vieille édition. Oui. Eh oui, c'est ça.
On est de la même époque.
Voilà. Et alors, il met, à la page 1093 au-dessus, la nouveauté de l'Alliance porte sur trois points. 1. L'initiative divine du pardon des péchés. Ça, c'est essentiel. Le pardon ne vient pas de nous. Nous nous insérons dans la miséricorde de Dieu. Je vais pardonner. l'initiative divine du pardon des péchés, donc l'initiative de l'amour. 2, la responsabilité et la rétribution personnelle. C'est toujours, hein, Dieu ne peut rien faire sans nous. Et c'est quand nous travaillons en synergie avec lui, hein, qu'il peut véritablement agir. Nous disons souvent, Dieu ne fait rien, ou il ne m'aide pas, mais nous mettons des blocages, il ne peut pas. Alors le problème, c'est précisément de voir ces blocages. C'est déjà pas mal, il faut qu'il nous les révèle et que nous nous laissions révéler, hein, voir des blocages, et le laisser traverser ces blocages, éventuellement les vivre. On peut vivre des blocages aussi, hein. Et alors, troisièmement, l'intériorisation de la religion. Je dis ça d'une façon un petit peu extérieure, mais enfin, patience. Hein. L'intériorisation de la religion, c'est-à-dire découvrir jusqu'où va l'amour de Dieu, jusqu'au cœur de notre péché. Ça va être dit d'une autre manière dans le Nouveau Testament quand on dit que Jésus est descendu aux enfers. Alors, c'est raconté souvent, dans l'épître de Saint-Pierre notamment, hein, comme il a été visiter les morts. Oui, mais il a été visité d'abord tout ce qui est mort en nous. Et donc la première visite de Jésus, c'est dans nos enfers. C'est-à-dire dans notre péché, dans notre révolte, dans tout ce que nous avons fait de pas bien. Il va visiter cela. Mais il va visiter cela pour l'assumer. Pour dire que c'est mal et pour assumer. Non pas le mal, oui, il peut le transformer, mais c'est la personne qui le transforme. Donc, c'est pourquoi ce texte est vraiment important. La nouveauté de l'Alliance, c'est que c'est une pure initiative divine, que nous ne pouvons rien faire sans lui, mais il ne peut rien faire sans nous. Dieu qui nous a créés sans nous, dit saint Augustin, ne nous sauvera pas sans nous. Parce que le salut est une réalité à laquelle nous avons à collaborer. Il l'a fait, il nous a sauvés, à charge pour nous de nous laisser sauver totalement. Et donc, il faut que nous laissions sauver jusqu'à notre intérieur. D'où intériorisation de la religion, comme il dit, hein? C'est-à-dire jusqu'au plus intime de notre liberté, là où nous refusons. C'est là le plus intime de notre liberté. C'est là où nous nous manifestons souvent contre. Ça vaut également pour les enfants. Hein? Les enfants, pour se valoriser, pour gagner leur liberté personnelle, ils s'opposent aux parents. C'est dans l'ordre des choses. Mais il faut pouvoir croire en eux au-delà de leur opposition, ou à travers leur opposition. Et c'est un petit peu cette attitude, il faut toujours mettre l'écriture dans l'ordre des relations, et voir comment ça se passe dans les relations humaines. Et l'amour traverse cela aussi. Maintenant, je passe assez vite là-dessus, mais il y a quelques détails qui sont quand même intéressants sur cet achat d'un champ du côté d'Anatote. C'est dans le bien familial. On va racheter un champ pour que ça ne passe pas à des étrangers. Parole adressée à Jérémie. Bon, hein, dans la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'est la fin. Hein. C'est presque au moment de la deuxième. Destruction de Jérusalem. La 8e année de Nabucodonosor. À cette époque, l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem. On est donc en plein siège. Enfin, à ce moment-là, on va dépenser de l'argent, hein, pour une nouvelle voiture. Se trouvait interné dans la cour de garde. Alors oui, le prophète Jérémie se trouvait interné dans la cour de garde au palais royal de Juda. Donc il est prisonnier. où Zédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer avec ce reproche. Pourquoi prophétises-tu en ces termes? Ainsi parle le Seigneur, voici je vais livrer cette ville aux mains du roi de Babylone pour qu'il la prenne. Tu es un fichu collaborateur, hein? Tu parles pour l'ennemi et il est là ou pas. Et donc, toute la résistance va tomber, les gens ne vont plus avoir le courage. Et le fait enfermer pour qu'il ne parle plus. Et Zédécias, roi de Juda, n'échappera pas au pouvoir des Chaldéens, mais sûrement il sera livré aux mains du roi de Babylone et pourra l'entretenir bouche à bouche et le regard dans les yeux. Rien de tel que négocier droit devant soi. Droit dans les yeux. À Babylone, il emmènera Zédécias, qui y restera jusqu'à ce que je le visite, oracle du Seigneur. Si vous combattez les Chaldéens, vous ne réussirez pas. Or, Jérémie dit, la parole du Seigneur m'a été adressée en ces termes. Voici, Hanaméel, fils de ton oncle Shalloum, va t'arriver pour te dire, achète mon champ d'Anatote, car tu as droit de rachat pour l'acquérir. Mon cousin Hanaméel m'arriva, selon la parole du Seigneur, dans la cour de garde, et me déclara, achète donc mon champ d'Anatote, car tu as droit d'héritage et le rachat t'intéresse. Vous voyez, c'est d'abord Dieu qui le dit, et puis c'est le cousin qui arrive. Pour dire, c'est Dieu qui a l'initiative de nos événements. Achète-le. Je reconnus alors que c'était un ordre du Seigneur. Il lui a déjà dit, et puis l'autre est venu, et puis il reconnaît. J'achetai donc ce champ à mon cousin Hanaméel, d'Anatote, et lui payai le prix, 17 cycles d'argent. Je rédigeai l'acte et le scellé, je pris les témoins et pesai l'argent avec la balance. Puis, je pris l'acte d'acquisition, son exemplaire scellé et sa copie ouverte, selon les prescriptions légales. Et je remis l'acte d'acquisition à Baruch, voilà qui arrive, fils de Neria, fils de Marséa, en présence de mon cousin Hanaméel, des témoins signataires de l'acte d'acquisition, et en présence de tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de garde.
Tout ça pendant qu'il est en prison.
Pardon?
Tout ça pendant qu'il est en prison.
Bon. Cour de garde, hein. Cour de garde, c'est... détention préventive. Devant eux, je donnais cet ordre à Baruch. Prends ces documents, cet acte d'acquisition, l'exemplaire scellé, comme la copie ouverte, voyez, on aime bien répéter, et mets-les dans un vase de terre, de façon qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes en ce pays. N'ayez pas peur. Ça va continuer, mais il faut traverser la tourmente. Après avoir confié l'acte d'acquisition à Baruch, fils de Neria, j'adressai cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, foi, c'est toi qui as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. D'abord le Créateur, ça c'est stable. À toi, rien n'est impossible. Puisque tu es créateur, tu es donc recréateur. C'est toi qui fais grâce à des milliers, mais punis la faute des pères sur leurs descendants en plein cœur. C'est la reprise de l'histoire de après le veau d'or, Exode 34, avec l'intercession de Moïse. Ô Dieu grand et fort, dont le nom est le Seigneur des armées, grand dans tes desseins, puissant dans tes œuvres, toi dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des humains, pour y rendre à chacun selon sa conduite et d'après le fruit de ses actes. Toi, donc, c'est le maître de la création et le maître de l'histoire. Ce sont les deux grands thèmes que vous trouvez dans les prières d'Israël. Et c'est encore le schéma des prières d'Israël aussi, aujourd'hui. Toi qui produisis signes et prodiges au pays d'Égypte et jusqu'aujourd'hui en Israël et parmi les hommes, pays d'Égypte, en Israël et parmi les hommes. Ce que tu fais pour un, tu fais pour tous. Tu t'es fait un nom, comme on le voit aujourd'hui. Tu fis sortir ton peuple Israël du pays d'Égypte par signes et prodiges à main forte et à bras étendus. On rappelle toujours la libération. Et par une grande terreur. Puis, tu leur donnas ce pays que tu avais promis par serment à leur père, pays où ruisselle le lait et le miel. On voit, c'est une composition de type Deutéronome. C'est du Deutéronome tout craché, ceci. Ils vinrent donc et en prirent possession. Mais ils n'écoutèrent point ta voix et ne marchèrent pas selon ta loi. Ils ne pratiquèrent rien de ce que tu leur avais ordonné. Alors tu dirigeas sur eux tous ces malheurs. Voici, les terrassements qu'on fait pour l'assaut atteignent la ville par l'épée, la famine et la peste. Elle est livrée aux mains des Chaldéens qui l'attaquent. Ce que tu as dit arrive et tu le vois. Et c'est toi, Seigneur, qui me dis, achète ce champ à prix d'argent et prends des témoins alors que la ville est livrée aux mains des Chaldéens. Ce sont les trois points que vous retrouvez constamment dans le message d'Israël. 1. Dieu choisit. Dieu choisit. Dieu fait alliance. Mais il choisit. Il appelle. Il appelle qui ? Ben Israël. Et Israël, c'est qui ? Ben c'est l'image du monde entier. Donc il appelle tout un chacun. Fait alliance. 2. Le peuple est infidèle à l'alliance, incapable d'observer les commandements. Il est incapable. 3. Dieu pardonne. Et il donne des signes de ce pardon. Vous retrouvez ce petit schéma absolument à travers toute la Bible. Dieu donne et fait union, et élection et don de soi-même. Infidélité de l'homme, pardon de Dieu. Dieu doit traverser l'infidélité de l'homme. Et vous voyez, cette prière reprend simplement ce schéma que vous retrouvez combien de fois aussi dans le Deutéronome et dans les psaumes et chez les prophètes. Or, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Vois, je suis le Seigneur, Dieu de toute chair, universalité. À moi, rien d'impossible. Dieu est d'accord avec ce qu'on dit de lui. Hein. C'est déjà pas mal. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je vais livrer cette ville aux mains des Chaldéens et aux mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville entreront et mettront le feu. Ils brûleront les maisons sur le toit desquels on a allumé l'encens pour Baal et répandu des libations en l'honneur d'autres dieux pour mériter. Car les enfants d'Israël et ceux de Juda n'ont fait depuis leur jeunesse que ce qui me déplaît. Les enfants d'Israël, en effet, n'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains, oracle du Seigneur. Oui, il y a toujours ces petites répétitions qui ont été ajoutées. Oui, cette ville a été pour moi un sujet de colère et de fureur depuis le jour qu'on l'a bâtie jusqu'aujourd'hui. J'en viendrai à l'ôter devant ma face. Mais je vais lui pardonner quand même. Hein. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont commis pour mériter. Eux, leurs rois, leurs grands, leurs prêtres, leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. C'est tout le monde.
Toujours les mêmes clichés.
Ils m'ont tourné le dos, non la face. Hein. Là, vous trouvez toujours. Est-ce que ce texte est de Jérémie ? Probablement pas. Mais il a été composé à partir des oracles de Jérémie. Ils m'ont tourné le dos, non la face, et quand je les instruisais avec constance et sans me lasser, aucun n'écoutait pour accueillir la leçon. Ils ont installé leurs horreurs, les horreurs c'est les idoles, hein, dans le temple qui porte mon nom pour le souiller. Ils ont construit les hauts lieux de Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch. Ce que je n'avais point prescrit, n'ayant jamais songé qu'il pratiquerait de telles infamies pour engager Judas dans le péché. Voilà où nous en sommes. Il ne faut pas vous étonner du châtiment. Ça fait partie du réel. Mais maintenant, et pour la même raison, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, à propos de cette ville dont tu viens de dire par l'épée, la famine et la peste, elle est livrée aux mains du roi de Babylone, je vais les rassembler de tous les pays où je les chassais dans ma colère, ma fureur et ma grande indignation. En ce lieu, je les ramènerai et les ferai habiter en sécurité. Nous arrivons au troisième point. Mais Dieu est d'accord avec la prière de Jérémie. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un autre cœur
et une autre manière d'agir, je leur donnerai. Un autre cœur et une autre manière d'agir, de façon qu'ils me craignent toujours pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien, et je mettrai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne s'écartent plus de moi. Je trouverai ma joie à leur faire du bien, et je les planterai solidement en ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà le Seigneur qui fait son chemin à Israël. Car ainsi parle le Seigneur, de même que j'ai amené sur ce peuple tout cet immense malheur, de même je leur amènerai tout le bien que je leur promets. On achètera des champs en ce pays dont tu dis, c'est un désert sans homme ni bête, il est livré aux mains des Chaldéens. Eh ben non. On achètera des champs à prix d'argent, on rédigera des actes, on les scellera, on prendra des témoins au pays de Benjamin, aux alentours de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans celles de la montagne, du bas pays, du Néguev. Qu'ai-je vu les rétablir ? Oracle du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui, le premier, passe à travers le péché de son peuple. Et à travers ce qui est la suite de ce péché, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem. Il passe le premier. Et il donne à son peuple de passer. Mais il ne supprime pas les réalités humaines. Ce sont les hommes qui détruisent les villes. Et Dieu prend tout ça à son compte. Je détruis et je reconstruis. Il prend à son compte les agissements des hommes. Il faut bien réfléchir à cela. Hein? Quand nous disons, mais on essaie de donner la liberté à nos enfants, de leur apprendre à être libres. Et quand ils font un acte de liberté, nous ne sommes plus d'accord. Disons, ça va pas, ça va mal. Ça va mal. Tu te mets dans un guépier. Mais il faut assumer. Il faut assumer. Il faut avertir. Il faut assumer. Et c'est parfois terrible. Hein? Mais ça, c'est la responsabilité humaine. Et Dieu nous donne d'être responsables. Et c'est pas évident du tout. Pendant que Jérémie était encore interné dans la cour de garde, la parole du Seigneur lui fut adressée une seconde fois, en ces termes. Et il est branché, hein, Jérémie, vous voyez. Le GSM fonctionne constamment. Ainsi parle le Seigneur qui a fait la terre, lui donnant forme et stabilité, toujours. D'abord, le Créateur. Son nom est le Seigneur. On part de là. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées, dont tu ne sais rien. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville et des demeures royales de Juda qui vont être détruites. Contre les travaux d'approche et les palissades, on va engager le combat avec les Chaldéens. Mais cela n'aboutira qu'à remplir la ville de cadavres, ceux des gens que j'aurai frappés dans ma colère et ma fureur, et dont j'aurai détourné ma face pour toute leur perversité. Vous jouez le jeu de la violence, vous serez violentés. Voici, je hâte leur établissement et leur guérison. Je leur rends la santé et je leur révèle une abondance de paix et de sécurité. Je veux changer le sort de Juda. Et c'est de nouveau, je veux retourner le retour. Le sort de Juda et celui de Jérusalem. Et les reconstruire comme auparavant. Je les purifierai de tout péché qu'ils commirent à mon égard. Je pardonnerai tous les péchés par lesquels ils m'ont offensé. Et se sont révoltés contre moi. Et Jérusalem me deviendra un sujet de joie, d'honneur et de gloire devant toutes les nations du monde. Quand elles apprendront tout le bien que je vais faire, elles seront prises de crainte et de tremblement à cause de tout le bonheur et de toute la paix que je vais lui accorder. Elles vont être jalouses, hein, les nations. Comme les cadets, hein, sont jaloux du fils aîné. Ainsi parle le Seigneur. Dans ce lieu dont vous dites, c'est un désert sans homme ni bête, dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem, dévastées, où il n'y a ni homme ni bête, on entendra à nouveau, et alors c'est le petit refrain, les cris de jubilation et de joie, les appels du fiancé et de la fiancée, le chant de ceux qui diront, en apportant au temple du Seigneur les sacrifices d'action de grâce, donc les processions hein, vers le sanctuaire, rendez grâce au Seigneur Sabaoth, car le Seigneur est bon, car éternel est son amour. Car je veux rétablir ce pays comme auparavant, déclare le Seigneur. Donc c'est la restauration qui est promise au moment même où on s'oppose. Ainsi parle le Seigneur des armées, il y aura encore dans ce lieu désertique privé d'hommes et de bêtes, et dans toutes ces villes, des pâturages où les bergers feront reposer leurs brebis. Dans les villes de la montagne, du bas pays, du Néguev, au pays de Benjamin, aux alentours de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte. Le Seigneur le déclare. Nous avons, maintenant, à partir de ce rachat du champ, nous avons une reprise du dessein de Dieu, qui est un dessein de vie qui passe à travers la mort. La mort des hommes, la mort que les hommes se donnent les uns aux autres.
Mais on pourrait dire, humainement parlant, il n'a fait que critiquer, hein, prenons mes mots. Et au moment où il est mis en prison, tout d'un coup, il rajoute l'espérance qui viendra plus tard. Mais il a fallu attendre qu'il soit au fond du puits.
Il n'est pas encore tout à fait, il va encore aller plus bas. Mais tu as raison. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a de véritable revirement quand nous n'avons plus aucun recours.
Ça se voit dans les maisons d'accueil aussi, ceux qu'on accueille, pour vraiment qu'ils soient au fond du gouffre pour que leur sort se ressaisisse. Pour certains.
Pour certains. Et certains, c'est le reste. C'est ce qui est promis à tous. C'est tout à fait ce mouvement-là. Tellement l'homme est dur, tellement l'homme a du mal à se lâcher. Et ça, c'est le combat de Dieu pour l'homme. Pour l'homme. Il faut parfois toute une vie pour y arriver. Hein? Voici venir des jours, donc on est en plein dans l'avenir maintenant. Hein? Eh bien, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et sur celle de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Donc c'est la promesse messianique. À travers la mort qui vient, la vie est donnée. Hein, comme je vous le disais, la mort est vraiment une création. C'est la puissance de Dieu sur la mort, sur ce que nous appelons la mort. Je ferai germer pour David un germe de justice. Justice, hein, c'est toujours un jeu de mots sur Cédésias. Hein. Tzedek, Yah. Tzedek, justice, Yah, le Seigneur. C'est le Seigneur qui est justice. Je ferai germer pour David un germe de justice qui exercera dans le pays droit et justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on appellera la ville, le Seigneur notre justice, Adonai Tzidkenu. Adonai Tzidkenu, notre justice, Tzedek. Vous l'aviez déjà vu au chapitre 23, dans, à la fin des oracles de Jérémie, nous avions déjà... chapitre 23, verset 6, nous avions déjà cela. Ici, c'est une répétition comme un écho. Donc, il y a beaucoup de répétitions ici, de choses que nous avons vues, pour montrer, voyez, dans le concret de la vie de Jérémie, ce qu'il avait dit s'accomplit, se vit, en tout cas. Car ainsi parle le Seigneur, jamais David ne manquera d'un descendant. Hein, la promesse pour la dynastie davidique que nous trouvons dans 2 Samuel 7,
prophétie de Nathan, et qui est reprise au chapitre 7 d'Isaïe, que nous retrouvons ici. Bon, d'ailleurs, c'est mis dans la marge. Jamais David ne manquera d'un descendant qui prenne place sur le trône de la maison d'Israël, et jamais les prêtres lévites ne manqueront de descendants qui se tiennent devant moi pour faire monter l'holocauste, faire fumer l'oblation et célébrer tous les jours le sacrifice. C'est ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel. Tous les jours au matin, on offrait un sacrifice pour les péchés du grand prêtre et pour le peuple. C'est ce qu'on appelle le sacrifice Ola, Olat Tamid, le sacrifice de toujours, sacrifice perpétuel. Puis la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en ces termes. Ainsi parle le Seigneur. Si vous pouvez briser mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, c'est-à-dire l'alliance de la création, le jour et la nuit, si vous pouvez briser mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit n'arrivent plus au temps fixé, mon alliance aussi sera brisée avec David, mon serviteur, de sorte qu'il n'y aura plus de fils régnant sur son trône, ainsi qu'avec les prêtres lévites, mes ministres. Si vous pouvez, autrement dit, si vous avez puissance sur la création, vous pouvez aussi avoir puissance sur l'histoire. Comme l'armée des cieux qui ne peut être dénombrée, ni le sable de la mer compté, référence à Abraham, ainsi je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui avec elle assurent mon service. C'est Moïse et Aaron. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en ces termes. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles qu'avait élu le Seigneur, il les a rejetées. Hein? Israël d'abord, 721. Parti en exil, et maintenant Jérusalem, 587, parti en exil. Il les a rejetés. Aussi méprise-t-il mon peuple, qui ne leur apparaît plus comme une nation. Ainsi parle le Seigneur, s'il n'est pas vrai que j'ai créé le jour et la nuit, et établi des lois pour le ciel et la terre,